Voilà, nous commençons le daf Mem Amoud Aleph. En haut de la page, on a déjà fait hier soir quelques lignes. Donc c'était l'histoire de Rav Chelbo qui était tombé malade. Dans un état critique, Rav Kana l'avait annoncé. Et dans l'entourage, les gens ne s'étaient pas mobilisés pour venir rendre visite. Alors c'est comme ça que Rav Kana, il les a secoués en leur rappelant une histoire avec un talmid de Rabbi Akiva qui était tombé malade. Et que personne n'était allé voir. C'est Rabbi Akiva en personne qui s'est déplacé. Et quand il est allé là-bas, il a fait nettoyer l'endroit, balayer, asperger le sol pour agrémenter l'atmosphère comme on le faisait à l'époque, peut-être même avec du vin. Et c'est comme ça que le malade a survécu à sa maladie. Alors Rabbi Akiva, il est sorti avec un enseignement Bet Midrash, « Kol mi she'ein mevak el cholim keilu shofer damim ». Ici, à la huitième ligne du haut de la page, celui qui délaisse le malade, il ne va pas lui rendre visite, c'est comme s'il cause la mort, parce qu'il pouvait lui sauver la vie. Et donc, délaisser cette cause, c'est Ras Veshalom, laisser périr quelqu'un. Alors, l'histoire, alors ça c'est une histoire, et la Gemara rapporte quelque chose qui se rajoute. Kiata Rav Dimi Amar, quand Rav Dimi est revenu d'Eret Israël, il a dit Kol ha-mevaker et ha-chole gorem lo she'yichye. Celui qui va avoir un malade, il lui cause de vivre. Il peut le sauver. Mais Kol she'lo mevaker et ha-chole gorem lo she'yamut. Et celui qui ne va pas le voir, il peut lui causer de mourir. Et là, on entend au niveau de Tfila, non pas dans le même registre qu'avant, que voilà, il va prendre soin du malade, il va lui montrer de l'attention, et il va faire en sorte que tout se passe bien et il a plus de confort, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas le sujet de Rav Dimi, parce que la Gemara, tout de suite, elle est axée sur Tfila. Elle a compris que le propos de Rav Dimi, c'est en matière de Tfila. Tu vas lui rendre visite, tu vas prier, tu vas lui sauver la vie, sinon, on va préciser sinon. Et là, le Maharsha nous dit, parce que comme Rav Dimi lui-même n'a rien précisé, alors instinctivement, nous, on comprend tout de suite que son intention, c'est Tfila, plus que d'autres services. Alors, Maï Gerama, quelle est cette Gerama? Il lui cause tantôt de survivre, tantôt de périr. Il est Makol Amevakeratachol Amevakesh Alavrachamim Sheyichye. Si ça signifie qu'en allant lui rendre visite, alors il va prier pour lui, et ainsi il va lui causer de vivre. Et je crois avoir lu une fois au nom du Ramban que ça fait partie de la mitzvah de Bikur Cholim que de prier pour le malade. Et celui qui ne va pas lui rendre visite, ça veut dire qu'activement, il lui cause la mort. En quoi? En priant pour qu'il meure. C'est ça l'intention de Rav Dimi, que tu prends littéralement dans un sens et littéralement dans l'autre. Littéralement, il lui fait vivre grâce à sa tfila, et littéralement dans l'autre sens. Parce que je le délaisse. Il manque d'intérêt à mes yeux, je ne vais pas le voir. C'est pourquoi je vais prier qu'il meure, ma pitom. C'est invraisemblable. Ça veut dire, même si on va voir que des fois un ennemi, il se réjouit qu'un autre est tombé malade. Si c'est son ennemi, ça arrive, on va le voir. Mais qu'un juif, même ennemi, aille prier pour la mort d'un autre qui est en souffrance, en difficulté, ça c'est invraisemblable. Donc, ne pas aller lui rendre visite. Ça veut dire ne pas prier, peut-être, mais prier pour qu'il meure, invraisemblable. Et là, justement, dit la Gemara, il a col chez Nevakerchol et Nevakerchel Avrachamim, l'oche Yichiev, l'oche Yamut. L'intention, dit la Gemara, c'est que celui qui ne va pas rendre visite, alors il ne prie ni pour ça, ni pour ça. Ce n'est pas il va prier qu'il meure, mais il ne va pas prier pour qu'il vive, et il ne va pas non plus prier pour qu'il meure. Le Ran, il dit, parce que des fois, prier pour que quelqu'un meure, ce n'est pas une mauvaise chose. Comme on a trouvé dans Maseret Ktuvot, que la servante de Rabbeinu HaKadosh, qui était une personnalité, qui avait beaucoup de connaissances, comme on voit dans des Gemarot, en tout cas, elle a vu comment Rabbeinu HaKadosh, dans sa maladie finale, il était allé tellement de fois au Beit HaKisseh pour se soulager parce qu'il en souffrait, et il mettait les tefillines, et il était mitztaer, etc. Elle a vu ses critiques, elle a demandé à ce que du ciel, on fasse que il quitte. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde était en train de prier pour qu'il survive. Et il y avait un bras de fer entre les Elionim et les Tartonim, ceux du ciel et ceux de la terre. Chacun voulait les Talmid des Chachamim de l'époque priaient pour le garder sur terre, dans le ciel on cherchait à le ramener là-haut. Et donc ce bras de fer, tout le temps qu'il priait, et elle a jugé que fallait. Ça veut dire, on apprend de là-bas que des fois, quand quelqu'un, c'est sûr qu'il va mourir, il ne fait que souffrir et que c'est critique, etc. Il y a des moments où on peut décider qu'il faut prier. On ne peut rien faire. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça veut dire, on ne peut pas lui abréger ses souffrances d'aucune manière parce que c'est lui causer la mort. Après, on devra rendre compte. Tant qu'Hachem le maintient en vie, ce n'est pas à nous d'abréger sa vie. Ça n'existe pas. Laisse Hachem faire les choses. Mais prier, si ça semble être son bien, on peut prier. Et donc, là, il ne va pas rendre visite. Donc, il ne va pas prier pour sa survie quand il est question de survie. Et il ne va pas prier non plus pour que abréger ses souffrances, si c'est le cas. Et donc, voilà ce que dit Rav Dimi. Tout ça parce qu'il n'est pas allé rendre visite. Donc, est-ce que ça veut dire « Gorem lo sheyamut » Ça colle plus. Le Maharsha dit que d'après l'explication que j'ai donnée, qui est celle du Ran, « Gorem lo sheyamut » c'est plus dans l'enseignement de Rav Dimi, ce qui ne lui cause pas la mort. Ce serait vrai s'il priait pour qu'il meure, mais ça on a dit, c'est invraisemblable, aucun juif ne va prier pour la mort d'un autre, parce que tu n'es pas allé le voir, alors tu vas prier qu'il meure, ma pitom. Et là, hein, tu ne vas pas prier, ni qu'il vive, ni qu'il meure. Ok, c'est un manquement dans un cas, c'est un manquement dans un autre. Tantôt, il fallait prier qu'il vive, tantôt, il fallait prier qu'il meure. Tu n'as pas fait ton devoir, ok, c'est un manquement. Mais on ne peut pas le taxer de quoi? De gorem lo chez Yamut. Ça, c'est délicat, dit le Maharsha. C'est pourquoi lui cherche une autre explication, il faut voir. Ensuite, Rava Yoma Kadma de Chalish, le premier jour qu'il est tombé malade, Amar Leon, il a dit certainement à ses proches, Lotiglu le Inish, ne révéler à personne. Delon litra mazale, pour pas que son mazal, en araméen, ça veut dire, ce qu'on dirait en français, mon mazal, soit affaibli. Ça veut dire que le Maharsha nous dit, il y a le fameux principe de Al Tiftar Picha la Satan. Si ça va courir sur la bouche de tout le monde, la rumeur que voilà, Rava est malade, ça adjuge de cet état. Et ça valide, et dans le ciel, ça renforce le décret. Alors, mieux que personne n'en parle, et pour que personne n'en parle, que personne n'en sache. Mikal Vaelar. Mais au-delà, une fois que c'est une réalité qu'il est malade, il y a un jour qui est passé, donc c'est une réalité. C'est pas qu'il y a un espoir que ça passe vite fait, comme dans certains cas. C'est qu'il y a un décret. On en est là. Alors, Mikan Vaenach, la meilleure chose. Amar Leon, Poku Vachrizu Veshuka. Il disait à ses proches, allez annoncer ça publiquement, et pas juste au Bet Amidrash. Bashuk, ça veut dire même sur la place, place publique. Pourquoi? Des cols des sanélis, lire des lits. Tout celui qui a de la haine pour moi, il va s'en réjouir. Or, qu'est-ce que je gagne? Ben, je suis gagnant. Vectif, c'est un passage qui dit, bin pol oifral tismar. Quand ton ennemi chancelle, ne te réjouis pas. Et la suite du passage, c'est ça qui intéresse surtout. Ubekachelo adiagel ibecha, et quand il trébuche, que ton cœur ne se réjouisse pas. Pen ire hachem. C'est un passage dans Michelet, que je lis dans la marge. Peignirai Hachem verra benav, de peur qu'Hachem remarque, ça lui déplaira, et si à Dieu ne plaise, veishiv me alavapo, il va retirer de lui sa colère. Lui qui est en difficulté, qui a eu un pépin dans la vie, c'est la colère divine, c'est pas un hasard. Mais si l'ennemi s'en réjouit, Hachem il tolère pas ça, alors il enlève la xéra et il sort l'autre de cette encombre, il le sauve. Et donc Rava il dit, ben c'est gagnant, si mes ennemis entendent, ils vont certainement se réjouir, et pour moi ce sera gagné, parce que Hachem, c'est une raison qui m'enlève la maladie. Vederachim li, et ceux qui m'aiment, li ve'alai rachamim, et ben ils vont être mevakesh rachamim pour moi. Alors si on le dit pas, les gens vont pas prier. Alors dites-le, et pas seulement Bet Hamidrash, même Bashuk, certainement Bet Hamidrash, il y a que les gens qui vénèrent Rava. Des gens qui sont intéressés par la Torah. Donc l'emblème de Torah, c'est Rava à cette époque. C'est sûr que tout le monde vénère Rava. Personne, mais s'il y avait des sonim, c'est peut-être dans la rue. Et alors c'est là-bas où on peut les toucher et leur annoncer. Donc annoncer même dans la chouk, comme ça tout le monde le saura. Les uns et les autres me feront que du bien. d'une manière ou d'une autre. Point. Amarav. Ravidi kola mevaker et acholé nitzol medina shel genam. Celui qui rend visite à un malade, il est épargné du din du geinam shenemar ashre maskil eldal beyomra yemalete ou hachem. Alors heureux celui qui est maskil eldal, qui prend compte, enfin, qui analyse et qui prend compte de la situation du dal. Il sait analyser les besoins du dal et subvenir à ses besoins. Il s'agit de qui? Normalement, dal, c'est un pauvre. Et dans plein de références, dal, c'est un pauvre. Mais là, on va interpréter le malade. Que tu sais aller t'enquérir de sa situation, de ce qu'il peut avoir besoin, de comment le réconforter, de comment le soulager de sa peine morale et de tout. Alors, ça, c'est Ashre Maskil El Dal. Qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Beyom Ra, Yemalete ou Hashem. Le jour du mal. Ra, c'est Geinam. Comment on va le prouver? Hashem va l'en épargner. Yemalete ou Hashem. Alors, En Dal et la Cholé. Dal n'a d'autre signification que malade. En tout cas, dans ce contexte, c'est ce que Rav veut être Doresh. Ça se peut qu'au sens premier du Passouk, Chat Pashut, c'est la Tzedaka que tu feras avec un pauvre, ça te vaudra. Peut-être, mais Rav il va être Doresh, que le Dal ici, ce n'est autre qu'un malade. Parce qu'on a trouvé le terme Dal pour désigner un malade. Shenemar, Midala Yevatse Eini, Inami, Minadenkra, ou encore un autre Pasuk. Midala Yevatse Eini, ça veut dire que de par la maladie, il me brise, il me. Ouais, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, Dala veut dire la maladie. Inami minadenkra, d'un autre pasouk, cet autre pasouk qui dit Madou atakacha dal ben ameler, baboker, baboker, etc. En tout cas, dal dans ce contexte veut dire malade. Et donc, par assimilation, Rav, il analyse, enfin il interprète que Ashrem maskil el dal dans Teilim, c'est exactement la même chose, c'est le malade. Pourquoi ce ne serait pas le pauvre? Parce que couramment, dal veut dire le pauvre. Alors, ponctuellement, ça peut signifier le malade. Mais lui, comme nous dit le Marja, il analyse plutôt ce terme dans le sens de malade, parce que sinon, c'est quoi maskil? Donner la tzedaka à un pauvre, t'as vu qu'il a besoin, tu donnes, d'accord? Il n'y a pas besoin de faire des analyses et des hakirot pour essayer de savoir. Par contre, un malade, oula, et il faut tout un savoir, il faut déjà même avoir des connaissances ou des connaissances médicales, ou demander du conseil, ou essayer d'analyser la situation, qu'est-ce qui est... Vraiment, c'est toute une expertise d'aller prendre en charge un malade. C'est ça, Ashre Maskil El Dal. Il y a une notion d'être maskil quand il s'agit d'un dal au sens malade. C'est pourquoi Rav l'interprète ainsi. Maintenant, le pasouk disait qu'en retour, Beyom Ra Yemalete ou Hashem. C'est quoi Ra? En Ra et la Geinam. Où je vois que Ra n'a d'autre signification que Geinam, Shenemar, Kol Pa'al Hashem Lema'aneu. Toute l'œuvre d'Hachem, c'est pour son kavod, hein, que tout a été créé pour le kavod d'Hachem. Et gam racha le yomra. Et même le racha au jour de son châtiment au Geinam. C'est donc le jour du Geinam. Donc on voit dans ce contexte que le mora désigne le Geinam, et ainsi pour le contexte au-dessus. Le yomra yemalete ou Hachem. Le jour où il est question d'aller au Geinam, Hachem n'en épargne. Point. Ça, c'est le bienfait de la mitzvah de Bikur Cholim qu'annonce Rav, pasouk à l'appui. Mais la Gemara réagit. Vim biker masraro. Et plutôt, c'est lui-même qui continue. Vim biker masraro. Et si... Ou je crois que... C'est peut-être la Gemara. Ça a l'air d'être un dialogue, donc ce ne serait pas Rav lui-même. Rav, il aurait affirmé directement quelque chose. Là, la Gemara, elle est en dialogue, donc elle essaie de retrouver... Quel est le bienfait s'il a fait Bikur Cholim? Im biker masraro. Masraro, que dit Amar. Tu demandes quel est son sachar? Mais comme il a dit Rav, Rav il a annoncé que Nitzol Midina Shel Geinam, c'est réglé. Qu'est-ce que tu cherches plus que ça? Et là, masraro baolam azeh. Voilà ce que nous, on se permet de demander. Au-delà de ce que Rav a dit, qu'il y aura ce sachar, que Israël parle de Geinam, ça c'est olam haba. Mais olam azeh, qu'est-ce que ça lui vaudra? Parce que on sait que ça me rappelle la Mishnah dans Maseret Peah qu'on lit le matin, que Bikur Cholim fait partie des mitzvot dont le Keren, et kayam pour l'olam haba, mais les perot pas olam hazé. Ça veut dire que mida keneged mida, ça lui va lui valoir des bienfaits dans ce monde, puisque on explique en général que ce sont ces mitzvot où on œuvre en bien vis-à-vis d'autrui. Alors à part que c'est une mitzvah vis-à-vis d'Hachem, mais tu as été bienfaisant envers autrui, ça te vaudra aussi des bienfaits dans ce monde. T'étov la briot, t'étov la shamaim, t'étov la briot, tu mérites des perot ba'olam hazé. Et donc c'est la question naturelle de la Gemara. Qu'est-ce que ça lui vaudra dans ce monde? On est sûr que, oui, la Mishnah l'a affirmé. Qu'est-ce que ça vaut comme mérite dans Olam Hazé? Alors la Gemara répond, Hashem ishmereu vichayeu veushar ba'aretz v'altiteneu benefesh oivav. C'est la suite des psukim, dans le même passage de Tehilim, dans le Mizmor, même Aleph. C'est le passage suivant. Et que signifie? Alors on va décortiquer. Hashem ishmereu, Hashem le préserve de quoi? De Yetzerara. Oui. Je crois même qu'il y a une explication comme ça dans Yivarecha Hashem v'Yishmerecha. La Shmira d'Hashem, c'est, et il t'aide à surmonter, ou le Yetzerara, des fois ça veut dire des incitations extérieures, Hashem t'en épargne. Le Yetzerara naturel de chacun, peut-être c'est pas évident de dire qu'Hashem, il nous l'enlève, c'est la Bechira. Mais peut-être ça veut dire l'incitation extérieure d'un Yetzerara comme sous forme du Satan. Ou que même le Yetzer personnel, peut-être Hachem, t'aide à le surmonter, faut voir. Vichayehu, mina yisurim. Il te fait vivre face au yisurim, que tu surmontes ou que tu es épargné de yisurim. Mais je crois que ça va de pair. Les souffrances sont le fruit des averot. Et si il t'aide à surmonter le Yetzer, donc tu fautes pas, donc tu évites les yisurim. D'ailleurs, on a parlé de prier pour le malade. J'ai vu une fois dans le Ktav Sofer que quand on prie pour un malade, on doit penser ou solliciter sa réparation spirituelle. Que d'abord sa neshama soit guérie, qu'il n'ait plus de faute à se reprocher, pour qu'après son corps guérisse. Parce que la vraie guérison, c'est bien sûr quand la neshama est guérie, alors le corps n'a plus besoin d'être malade, il guérit naturellement. Et ça, c'est la refoua que seul Hachem il sait faire. Un docteur, il sait guérir le corps au maximum, s'il arrive. Mais il ne sait pas guérir la neshama d'un malade. Donc il guérit que les symptômes, il ne guérit pas une guérison de fond, à l'origine, à la source. Hachem, il peut guérir même à la source au niveau de la neshama. Et ça fait partie de la tefila. C'est une parenthèse. Et donc, quand lui en retour, Mida Keneged, Mida Hachem lui accorde qu'il n'aura pas d'issourim, parce qu'il n'aura pas de faute à se reprocher, parce qu'on l'aura aidé à surmonter le Tzara, et c'est ainsi que même des Yisurim, il est épargné. Ve'ushar ba'aretz, sheyu akol mitkabdin bo. Ve'ushar ba'aretz, je crois que ça veut dire, il sera félicité de toutes parts. Tout le monde est fier de lui. Ve'ad, et alors quel est le midah, quel est le midah, je ne sais pas. Peut-être qu'un malade, il se sent en reste, délaissé, et toi tu es venu lui montrer de l'attention et de l'estime, et que il compte pour toi, etc., alors tu auras le même yachas, le même rapport de la part d'autres personnes envers toi qui te montreront que tu comptes pour eux. Ensuite, va titene ou benefesh oivav, et tu le livres pas dans la main, pardon, nefesh oivav. Nefesh oivav, c'est pas beyad oivav. Dans la main des ennemis. Nefesh, c'est, il dit le marcha, c'est le ratson et le dat. Hein, comme on dit, Miyeshet Nafshecha, Likvor Admeti, Avram Avenu, il a dit. D'accord? Enfin, Ephron. Et donc ici, Al Titenu ben Nefesh Oivav, Sheizdam Nulo Reim Kenaman, Sheripu et Sarato, Vealizdam Nulo Reim Kerechovam, Shechilku et Malchuto. Que la personne va bénéficier de conseils provenant d'amis, mais de bons conseils qui vont le sauver. Comme ça a été le cas d'un roi du nom de Naaman, que les conseillers lui ont sauvé la vie finalement. Il était Metzora, il est venu consulter Elisha. Elisha lui a dit, voilà, il va te tremper là-bas cette fois dans ce fleuve de Eretz Israël. Et lui, ça c'était comme une injure pour lui, il a très mal réagi, il a très mal pris, bref, comme si dans son pays, ses fleuves n'étaient pas aussi vertueux, etc. Bref, Et il s'est entêté, endurci, et il n'allait pas faire ce que le Navi lui a dit. Sauf qu'après, ses conseillers, ses amis l'ont influencé, et qu'est-ce que tu perds, etc. Baisse la tête un peu, et finalement, il a suivi le conseil, il a survécu. Donc c'est ça, Séréim, dit le Maharsha, ce sont ses proches, enfin ses conseillers, ses amis, qui l'ont finalement conseillé de s'y soumettre. Il y en a qui disent que c'est Elisha lui-même. Bon, en tout cas, un conseil qui finalement l'a sauvé. Et mieux que quoi, et pardon, ça c'est ce qu'on lui souhaite, et non pas des conseils de la part d'amis qui finalement vaudront non pas un bienfait, mais le contraire, comme Rehovam. Rehovam, il a pris conseil, c'est le fils de Shlomo. Comme il y avait beaucoup de charges et de taxes sur la population, quand Shlomo est niftar, alors Rehovam, il y avait une attente de la part de la population qu'on allège. Il demandait, réclamait un allègement, et Rehovam s'est concerté avec des conseillers. Les Ekenim, qui étaient les anciens conseillers de Shlomo, lui ont conseillé d'alléger, et les plus jeunes, et les nouveaux jeunes conseillers, lui ont dit, ben non, faut durcir le ton, faut au contraire, faut revendiquer davantage, etc. Et ça, ça lui a valu chez Chilkou et Malchuto. Il y a une scission dans la Malchut de Rehovam, parce que c'est comme ça que Rehovam est revenu. Il s'était réfugié en Mitzrayim, il est revenu, et il a pris le pouvoir sur 10 des Shvatim. Et donc, il y a eu la scission de la Malchut, et qui a mal terminé après, ça s'est terminé avec le Churban, etc. Donc, c'était le conseil des uns qu'il fallait écouter, pas des autres. Alors c'est ça, hein, que Hachem ne te met pas dans le nefesh, oivav. C'est quoi nefesh? Ça veut dire le conseil, leur réflexion, leur intuition, d'accord? Que ça ne te vale pas du mal si jamais tu te fais conseiller une fois ou une autre. Qu'on a vu que les uns se sont fait conseiller, ça leur a sauvé la vie, d'autres au contraire, ça leur a plombé la malroute. Tania. Rabbi Shimon, alors pourquoi ça fait partie du Mida, Keneged Mida, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais peut-être parce que quelqu'un qui fait Bikur Cholim comme il se doit, il vient et il donne des bons conseils pour sauver la vie du malade. Ce n'est pas juste « Bonjour, comment ça va ?» et hop, il s'intéresse à la maladie, à la souffrance, à la difficulté, et qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager, si on peut appeler quelqu'un de compétent, etc., etc. Donc il est dans, c'est ça « Maskil El Dal », comme on a dit dans du marché à Maskil, il y a de la réflexion plus que vis-à-vis d'un pauvre. Ok, le pauvre, il a besoin, je sais à peu près ce qu'il a besoin, je lui donne. Le malade, c'est une analyse beaucoup plus poussée. Et donc, il y a ici toute cette recherche, cette investigation. Et en retour, Mida, Keneged Mida, c'est que les gens qui devront nous aider dans une situation ou une autre, nous donneront le bon conseil. Comme c'est. Voilà. Tania, dans une braïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Im yomru lecha yeladim bnei uzkenim setor, shema lizkenim v'altishma liyeladim. Si tu as deux parties qui te conseillent, des plus jeunes qui te disent construis, et des plus âgés qui te disent détruis, écoute les ekenim. Ils ont plus d'expérience de la vie, ils ont plus de connaissances, plus de recul, sont plus posés et réfléchis que des jeunes. Oui. Et donc, le conseil en provenant des Ekenim est à privilégier. Vartishma l'Iladim, n'écoute pas l'Iladim. Pourquoi? Chez Binyan l'Iladim stira. Ça peut paraître comme construction. Ça veut dire, tu as l'impression que le conseil d'Iladim, ben c'est prometteur. On construit, on bâtit. On a de l'avenir devant nous grâce à ça. Eh bien, figure-toi que non, ça peut être stira. Ça peut s'avérer que c'est une démolition et que ce sera un échec total. Et des fois, stira des Ekenim, ce qui semble être à tes yeux, la stira des Ekenim, que le conseil des Ekenim te donne l'impression qu'il faut détruire, découdre, ça veut dire, tu as l'impression qu'il faut reculer, et ce ne sera pas une avancée, ce ne sera pas un progrès, etc. Eh bien non, au final, ça peut s'avérer être un binyan. Oui, une construction, oui, une avancée, oui, un progrès, etc. Alors, c'est-à-dire, les apparences sont trompeuses. Toi, qui es dans la situation où tu as besoin de conseils, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas capable de voir tous les paramètres, tous les aspects, tu fais appel à des conseillers, Alors sache que les Ekenim ont plus d'atouts que les jeunes, parce que voilà, ça peut être des fois l'apparence exactement inverse de ce que tu perçois. Pardon, l'apparence que toi tu perçois, c'est l'inverse de la réalité. Tu crois que les jeunes t'annoncent un tableau tout rose, oui, c'est prometteur, ça va. Eh bien, c'est le contraire. Et les Ekenim ont plus de recul, ils ont plus d'expérience, et aussi ils sont plus posés, réfléchis. Ils ne jettent pas comme ça vite fait un conseil. Siman Adavar, c'est pas une preuve, mais en tout cas, c'est un signe à cette affirmation qu'on vient de donner. C'est ce qu'on a vu avec Rehovam ben Shelomo. Qu'il a pris conseil chez les Ekenim et chez les Yeladim. Les Ekenim lui ont dit, réfléchis un peu, réponds à temps du peuple, aligne-toi, allège les taxes, allège les charges, etc. En apparence, c'est un recul. C'est moins prospérer, c'est avoir une moins bonne assise en tant que roi, etc. etc. C'est un recul. Donc, il pensait que c'est une stira. Non, il n'a pas suivi. Et les Yeladim, qu'est-ce qu'il lui conseillait? Durcis davantage, exige davantage, ce sera bien sûr, voilà, si ça pouvait marcher, peut-être, c'est une avancée, peut-être c'est un progrès, peut-être c'est plus de prospérité, peut-être c'est une meilleure assise de ta royauté, si vraiment là, ils te suivent, mais si finalement ça va clasher comme ça a été le cas. Et donc il n'attendait que ça, que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, et c'est comme ça que le concurrent est revenu de Mitzrayim et Romain, et il y a eu la scission, etc. Voilà, donc c'est... Les apparences sont des fois trompeuses, même si tu as l'impression que les jeunes donnent le bon conseil judicieux, méfie-toi. Et les plus âgés, c'est plus logique que leur conseil est plus judicieux. Amaravin Amarav, Minayin Shakadosh Baruch Hu Zanet Acholé.
Shisha.
J'ai sauté. Amarav Shisha, Bered Ravidi, merci. Lolis Odinish, Ktsira, Lobitlatshae Kadmiata, Velobitlatshae Batraita. Un homme ne doit pas aller rendre visite au malade. Ça veut dire l'ifkod et acholé, mais l'ifkod, ça veut aussi dire s'enquérir du malade. Et donc, c'est ça, aller rendre visite. Ktsira, c'est un malade en araméen. Ni dans les trois premières heures de la journée, Velobitlatshae Batraita, ni les trois dernières des yomas du jour. La journée est divisée en 12 parts, c'est ce qu'on appelle des heures zmaniot. Et donc les trois premières parts du jour, c'est-à-dire jusqu'à l'équivalent de Zman Kriyat Shema, d'accord, ou bien les trois dernières de la journée, on ne va pas lui rendre visite. Pourquoi? Pour ne pas qu'on délaisse ou qu'on renonce à prier. Et c'est Aradat, ça veut dire j'écarte de ma pensée l'idée de la tfila. Je vais laisser tomber proche de faire de tfilot. Pourquoi? Parce que je l'ai rendu visite le matin ou le soir. Ça va m'encourager à délaisser. Oui. Parce que trois premières heures de la journée, le malade, il est mieux dans sa peau, dans son élément. Il a le date. Il est moins opprimé par sa souffrance, etc. Donc tu as l'impression, oh, ça va, il s'en sort, il ne se porte pas trop mal. Tu ne vas pas trop prier pour lui. Ou bien, batraïta les dernières heures de la journée. Takif roulché, sa faiblesse se renforce. Ah, en fin de journée, tout le monde est fatigué, mais lui, il y a sa maladie plus la fatigue. Alors là, tu le vois dans un piteux état, tu dis c'est désespéré, ce que ma tfila va le sauver, et tu pries pas. Et donc, tu délaisses la tfila, or, Bikur Cholim fait partie, pardon, tfila fait partie de la mitzvah de Bikur Cholim. Donc vas-y à un moment où tu ne seras pas désespéré. De faire des tfilotes. Ailleurs, la Gemara dit que quand on est en présence du malade, on peut prier même en araméen. Parce que Hachem est présent, comme on va le dire. Et donc, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Les anges ne comprennent pas l'araméen, c'est une chose. Donc, on évite de prier en araméen. Mais quand tu es en présence de la Shrina, voilà, en présence du malade, il y a la Shrina. Alors, c'est bon, tu peux prier. En tout cas, ça fait partie de la mitzvah que de prier. Amaravin, Amarav. Minayin shakadosh baruch hu zanet acholé. D'où on sait que Hachem... Alors bien sûr, ce qu'on a dit ici, trois premières heures, trois dernières heures à éviter, c'est quand tu peux à un autre moment. Et si quelqu'un ne pourra pas à un autre moment, vas-y même, c'est logique, je pense. Maintenant, Ravin Amarav, il commence un enseignement qui est du sujet, et après il y aura toute une succession d'enseignements, même indépendants du sujet de Bikur Cholim, parce que c'est la même source, c'est Ravin au nom de Rav, alors on va les enchaîner. Alors, premier enseignement, Minayin Sheashchina Shruya Lemala Mimik, pardon, Minayin Sheakadosh Baruch Hu Zan Et Achole. D'où savons-nous que Hachem nourrit le malade? Shenemar Hachem Isadenu Aleres Devaï. Hachem le soutient sur le lit de sa maladie. Non, pas le soutien. Saad ici Milachon Vesaadu Libechem. Ça veut dire rassasié. D'accord? Lechem Levav Enosh Yisad. Saad Milachon rassasiement et Hachem le rassasie. Le Maharsha explique que la fièvre qui est souvent présent, c'est un phénomène qui nourrit, comme ça c'est Mashba dans une grâce, ça nourrit le malade dans le sens qu'il n'a pas besoin de... Il a une chaleur qui fait qu'il n'a pas besoin de nourriture ou d'apport calorique, je ne sais pas exactement. Et en tout cas, c'est comme si ça le rassasie. C'est comme si. Et ça, c'est un phénomène qui vient d'Hachem tel qu'on décrit ici, pour le bien du malade. V'amaravin amarav minayin shashkina shruya lemala mimitato shel chole. D'où on sait que la Shekhina est présente au-dessus du lit du malade. Shenemar Hashem Isadenu Aleres Devaï. Et là, c'est Milashon Saad au sens soutenir. Hashem soutient le malade sur le lit de sa maladie. Donc, c'est qu'il y a la Shekhina auprès du malade. Point. Tanyana Miyachi. Et on trouve ainsi indiqué dans une Braïta à travers des pratiques qui s'imposent quand on est en présence d'un malade. La Braïta nous dit Anirnas Levaker et Acholé, lo Yeshev, lo Algabe Mita, lo Algabe Safsal, lo Algabe Kissé. On ne peut pas s'asseoir ni sur un lit, ni un banc, ni un siège quand on vient rendre visite à un malade. Et là, mitatev yoshev al gabe karka. On est mitatev, ça veut dire on met l'habit sur la tête, comme le talit, par respect, par crainte, par sérieux pour les circonstances, et on s'assoit humblement à même le sol. Mipne shashrina shruya lemala mimitato shel chole. Parce que la Shekhina est présente auprès du malade, chez Neymar, Hachem Isaden ou Aleres Devaï. Et donc, la Braïta, elle confirme ce qu'a dit le Amora, et c'est ce qu'on retrouve, qu'il y a une incidence pratique dans la manière de s'installer. On n'est pas là à s'installer confortablement. Quand on sait qu'on est en présence de la Shekhina, il faut carrément se soumettre. On s'assoit humblement au sol, mais le Ran précise que certains disent uniquement si le malade lui-même, il est au sol, ou sur un lit très bas, et non moi je m'assois sur une chaise plus haut, c'est là où c'est indécent vis-à-vis de la Shekhina. Mais si lui-même il est sur un lit, comme à l'hôpital, les lits sont souvent élevés, on veut s'asseoir sur une chaise plus bas, ce ne serait pas sourd d'après ça, mais je ne me rappelle pas, il faut voir dans la Lacha qu'est-ce qui est précisé. Ensuite, Ve'amaravin amarav, mitrabimarava sa'adaraba perat. Et là on sort du sujet, mais parce que c'est le même intervenant, Ravin au nom de Rav. Quand il y a la pluie en Eret Israël, c'est ça l'ouest, pour nous les gens de Bavel, Eret Israël, quand il y a de la pluie, Sahada Rabba, le grand témoin, Perat, c'est le niveau du Perat. Si je vois le fleuve Nahar Perat qui vient d'Eret Israël jusque Bavel, je vois le niveau à monter, ben on devine qu'en Eret Israël il y a eu des pluies. On peut s'en réjouir que pour nos frères d'Eret Israël. On ne sait pas, mais on peut le deviner. Voilà. Est-ce que cette phrase, c'est juste connaissance de la nature, sans plus? Non, Rav n'avait pas l'habitude de parler. Il y a des gemarotes où on dit que même une petite sirat talmidei chachamim, sirat roulin shel talmidei chachamim, sirat talmud. Quand un chacham dit une petite phrase de ce genre, tu crois que c'est juste un petit constat d'un aspect de la vie ou de la nature, hein? Non, attention, il y a une halakha qui se cache derrière. Et là, justement, le chidush halachi qui en résulte, c'est la chose suivante. C'est qu'on ne pourra pas se tremper dans le fleuve parce qu'il y a de l'eau de pluie. Et l'eau de pluie qui s'est rajoutée, si elle est majoritaire, le fleuve n'est plus métaher. Il y a deux principes pour avoir la tahara. C'est s'immerger ou dans un mikvé ou dans un mayan. Mikvé, c'est de l'eau stagnante qui est emprisonnée dans un bassin D'accord? Bon, il ne faut pas que ce soit chauvim, c'est un sujet, mais en tout cas, l'eau, elle est. Au contraire, il ne faut surtout pas qu'elle soit en mouvement. S'il y a des infiltrations et que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, c'est pas soul. Faut que ce soit parfaitement bien hermétique. Si l'eau est en mouvement, on appelle ça zochaline.
Mais il y a quand même une réception d'eau de pluie, non, pour que ce soit en mikvé, il y a
ouais,
pas de.
Non, mais rien ne sort.
Rien ne sort, mais ça rentre.
Ça rentre, peut-être. Peut-être. Est-ce que ça dérange que ça rentre? Je crois pas. Je sais pas. Je crois pas. Mais en tout cas, il faut pas qu'il y ait un courant, ça c'est sûr. C'est ce qu'on appelle zochel. Maintenant, un fleuve, l'eau est courante. Est-ce que ça dérange? Eh bien non. Parce que le fleuve, il a une source souterraine, une nappe souterraine qui génère ce fleuve. Et ça, c'est Mehmayan. Mehmayan, c'est Metaher Zochalin. C'est Metaher en mouvement. C'est pas un problème. Donc, Mikve, c'est Metaher que Ashboren. Ashboren, c'est stagnante, bien délimitée, sans mouvement. Et l'eau des sources naturelles, c'est Metaher en Zochalin. Un fleuve, normalement, c'est valable. Même Bezochalin, c'est Metaher. Sauf que, s'il y avait plus d'eau de pluie dedans. Et l'eau de pluie, c'est pas l'eau de la source naturelle, c'est pas de la source souterraine. L'eau de pluie, c'est métaère que mikvé, stagnant. Tu crées un bassin, tu as collecté l'eau de pluie de manière ingénieuse, et sans que ce soit chauvim, et l'eau est stagnante, elle bouge pas. Là, oui, c'est métaère. Et donc, si elle est en mouvement dans le fleuve avec l'eau du Mayan, mais il y a plus d'eau de pluie que d'eau du Mayan, c'est problématique.
Ça existe, que l'eau de pluie soit majoritaire par rapport
à l'eau. Eh bien, c'est ce que Rav est en train de dire. C'est ce que Rav est en train de dire, que quand on voit que le niveau monte ici, on sait qu'il y a eu de la pluie là-bas, l'incidence à la rique, c'est que donc, il faut en tenir compte par rapport à s'autoriser à se tremper dans le fleuve, qu'on ne pourra pas si on peut craindre qu'il y a plus d'eau de pluie. Que d'eau de pluie ou la fonte des neiges, etc. Et donc, il faudrait s'abstenir de se tremper dans ce fleuve.
On voit régulièrement aujourd'hui avec les crues, les machins, tout ça.
Oui. Et alors maintenant, le RAN. Le RAN nous cite une braïta, la Tosefta, Rabbi Elazar bar Tzadok, il a été meïd à la Zochalin chez Rabou à la Notvim, chez Mkshirim. D'accord ? Que si on sait que les Zochalin, c'est-à-dire l'eau de la source naturelle, du fleuve, d'où émane le fleuve, sont excédentaires, sont majoritaires par rapport aux notfim, l'eau qui tombe, l'eau qui goutte, ça veut dire les pluies ou neige, alors ça reste cachère. Mais quand tu n'es pas sûr, eh ben, tu dois t'abstenir. C'est le sous-entendu de Rav, Ravina Marav, ou Pliga de Shmuel. Maintenant, cette affirmation, elle est en divergence avec Shmuel, d'Amar Shmuel Nahara Mikipei Mitbarech. Lui, il dit qu'un fleuve, quand il y a bracha, ça veut dire le volume, le niveau du fleuve qui monte, accroissement d'un fleuve, d'où ça vient? Mikifé, ça veut dire de son sela. Sela, le rocher, ça veut dire de sa source naturelle, c'est là-bas qu'il y a eu un accroissement. De la nappe souterraine, d'où il vient? C'est de là-bas qu'il y a eu accroissement, et c'est pas l'histoire des pluies arrête. Non, c'est pas la pluie. Quoi, on est naïf? On n'a jamais vu qu'un fleuve, pile quand il y a plus de pluie et fond de neige, alors le niveau il monte. Dit le Ran, loin de là. C'est sûr que Shmuel est d'accord que une part de cet accroissement est liée à la fonte des neiges et aux pluies, etc. Mais Shmuel, ça lui fait pas peur. On peut malgré tout se tremper dans toutes les circonstances parce que il y a une Gemara que nous cite le Ran de Maseret Ta'anit, que chaque tefar d'eau qui tombe du ciel, comme on va dire un tefar de pluviométrie, ça équivaut à deux tefarim en volume d'eau qui proviennent des nappes souterraines. Alors je ne sais pas comment on l'explique, mais peut-être que c'est aussi l'eau de pluie qui va aller alimenter les nappes souterraines, je crois que c'est comme ça qu'on comprend de nos jours, je crois, mais que seule l'eau qui vient directement dans le fleuve ou par ruissellement des collines s'appelle Notfin. Mais l'eau qui a infiltré le sol et qui est arrivée dans les nappes souterraines et qui après alimente le fleuve à son tour, ça, certainement, ça, c'est indigne de Mayan. Et maintenant, la Gemara établit qu'il y a deux tiers contre un tiers. Donc, en aucun cas, j'aurai un rov de Notfin dans un fleuve. Ce sera toujours un rov de Zochalin. Zochalin, eau de la source naturelle. Toujours. Même si je vois qu'il y a eu beaucoup de pluie cet hiver, et je vois que le niveau est monté. Oui, mais je sais que À un tiers, c'est les notes fines, c'est pluie et neige. À un tiers et pas plus. Et donc cet accroissement, il est toujours majoritaire du Mayan. Donc le niveau d'origine, c'est le Mayan. L'excédent, c'est à deux tiers Mayan. Donc laisse tomber le tiers de Kshamim, ça ne me dérange pas. Donc d'après Shmuel, on peut toujours, à tout moment de l'année, sans se poser de questions, s'immerger dans un Nahar. Ou pliga de Shmuel à des Shmuel. Et la Gemara fait remarquer que Shmuel lui-même est en divergence avec lui-même. Certainement, ça voudrait dire qu'il a été Roserbo, parce qu'il a donné un avis différent. Il a dit autre chose une fois qui ne va pas de pair. D'amar Shmuel, Shmuel a dit en amaï metarim bezochalin elaperat beyom etishri bilvad. Les eaux d'un fleuve, sous-entendu, ne sont metaher. Même pas sous-entendu, c'est explicite. C'est quoi Zochalin? Ici, Zochalin, ça veut dire en mouvement. Des fois, Zochalin, ça désigne l'eau qui vient de la source. Source d'où émane le fleuve. Mais ici, Zochalin veut dire en mouvement. Alors, l'eau Nemetaher en mouvement, en français, un fleuve Nemetaher, que Perat, le Nahar de Perat, Beyomé Tishri. Dans la période de Tishri. Bilvad uniquement. Alors si on prend cette phrase tout cru, ben, ce serait littéral quoi. Non, c'est pas vrai, dit Loran. C'est pas vrai. Shmuel n'est pas en train de restreindre que au fleuve de Perat et pas les autres fleuves, il n'y a aucune raison. Et c'est pas spécifiquement que les jours de Tishri et d'aucune manière à notre moment. Shmuel tient compte de ce que Rav a dit. C'est ce qu'on constate ici, ça c'est sûr. Qu'il y a un problème. Que s'il y a trop d'eau de pluie, c'est possède. Le fleuve n'est plus adéquat pour se tremper. Sur ça, il n'y a pas de chéla. C'est ce que l'Agmali se contredit lui-même, Shmuel. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Est-ce qu'il a voulu dire il n'y a que ce fleuve et que ce moment? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Dit Loran, parce qu'on a vu déjà dans une braïta, il a mis comme base au début de la Suga, que quand un fleuve, tu sais que Zochalin Rabou à la Notfin, si tu sais qu'il y a plus d'eau de source naturelle dans le fleuve, que de la pluie, c'est cachère. T'as un Tana qui te l'a dit. La morale ne va pas être relègue sur ça. Donc ça, c'est la base. Donc, ici, c'est une question de prévoyance. Tu connais pas, alors méfie-toi. Quand tu n'as pas à te méfier, il y a un moment dans l'année, c'est Yom Tishri. Parce que Yom Tishri, c'est après une longue période après la fonte des neiges. Il y a eu Nissan à Tishri, c'est tout, le printemps et l'été. Donc, fonte des neiges et les pluies, c'était déjà depuis longtemps. Le niveau a pu retomber. Donc, il n'y a plus maintenant à craindre un rov de notre film. Alors là, j'ai le cœur net, je suis tranquille, on peut se tromper, même que je ne connais pas. Mais si je connais, imaginons, je sais analyser l'origine de l'eau du fleuve. C'est simple, dit Loran. Si je connais l'endroit et je notais c'est où le niveau du fleuve, dans les moments où il est le plus à sec dans l'année. Et j'ai fait un marquage, disons, là je sais que c'est à ce niveau-là. Après, quand le niveau y monte, ben je sais évaluer si c'est le rov, c'est pas le rov. Même si l'excédent, je l'attribue aux pluies, c'est notre film, moi Shmuel comme Rav, dans ma Shmuel 2 comme Rav, alors ça peut invalider, ça peut rendre pas seul, c'est vrai, mais...
On ne connaît pas la profondeur je connais. Fleuve.
Si je connais, alors c'est vrai que c'est. Faut tenir compte aussi de l'inclinaison des deux rives comme ça, parce que oui, alors le niveau en bas, est, c'est pas un fleuve, n'est pas forcément canalisé comme aujourd'hui, et même quand ils sont canalisés, c'est juste sur le rivage, mais en bas, ça peut descendre beaucoup plus, etc. Je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un pourrait connaître, et s'il maîtrise ça, dit Laurent, il n'y a pas de problème. Il sait que ce fleuve n'a pas un rove de notre film, on peut se tromper. Et donc, c'est là d'Afka ce fleuve, dans tout fleuve où je sais maîtriser la situation, c'est bon. Maintenant, Shmuel veut nous dire, quand on ne connaît pas, on ne peut pas. On ne s'y connaît pas. Eh bien, je vais dans un nouveau endroit, je n'ai jamais pris de mesure pour évaluer. Je ne sais pas. Ou même Perat, je ne sais pas. Et bien là, il y a le din qu'en Tishri, j'ai le cœur net. Pourquoi? Parce que là, on est loin après la fonte des neiges, on est loin après la période des pluies. Donc là, il n'y a plus à craindre tellement. C'est-à-dire, l'eau s'est renouvelée, c'est l'eau de la source naturelle du fleuve. Pluie et tout ça, ça a déjà été évacué. Et donc là, c'est ce qui fait que on peut se tromper sans doute, sans avoir de doute. Maintenant, il dit, c'est possible que en plein Yemet Tishri, on a un rov, si on a pu constater que c'est vrai. On connaît le fleuve à tel niveau, d'habitude. Et on voit qu'il est très élevé. Et d'où ça vient? Un accroissement d'un fleuve, comme l'a dit Rav, pour Shmuel aussi dans cette deuxième version, c'est les pluies. C'est qu'il y a eu des pluies, nous on est à Bavel, c'est que là-bas il y a eu des pluies, en été, invraisemblable. Et ben, forcément, et ben, on ne se trempera pas dedans. Donc c'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est la présomption minastam. Quand je ne connais pas et je ne maîtrise pas le phénomène, alors je dois raisonner, me dire, si maintenant je vois un niveau surprenant, ben c'est de la pluie, donc c'est pas saoul. C'est plus que le rove, c'est pas saoul. Et en Tishri, en général, si je ne connais pas, je peux me rassurer que c'est vraiment l'eau de source, c'est pas vraiment l'eau de pluie. Avad de Shmuel, le père de Shmuel, Avad Lehun, Mikvaot Lebinte, pour ses filles, il a ménagé des mikveh, Beyom et Nissan pour la période de Nissan. Ou Mapatse Beyom et Tishri. Mapat, ce sont des nattes, d'après un rashi quelque part en kanim, en roseau, dans les jours de Tishri. Ça veut dire que ces filles, quand elles devaient se tremper en tant que Nida, alors ils prévoyaient tantôt des mikveh, tantôt un mikveh, c'est pas avec un. Une construction, etc. Mais un mikveh, avec les règles de mikveh, parce qu'on ne pouvait pas se tremper dans le fleuve. Ça veut dire qu'Avad Shmuel y pense, comme précédemment, que l'eau de pluie peut invalider. Et alors, en Yom Nissan, faut craindre. C'est quoi Yom Nissan? Alors, d'après une explication que cite le Ran, Yom Nissan, ça veut dire ben, toute la période de Nissan jusqu'à Tishri. C'est le printemps et au-delà, qu'il y a encore des résidus de la fonte des neiges et des pluies. Et a fortiori, la période d'hiver, où il y a vraiment les pluies qui arrivent. Que là, ce sont les périodes dans l'année où il faut craindre qu'il y a trop d'eau, qui sont des notes fines et qui sont maintenant en mouvement et que c'est pas soul pour s'immerger. Donc il ne laissait pas ses filles aller au mikvé, enfin de se tremper dans le fleuve. Il faut avoir un vrai mikvé. Et tandis qu'en été, c'était possible de se tremper dans l'eau du fleuve, parce que Yemet Tishri, précisément, Yemet Tishri, comme on l'a dit plus haut, c'est le moment où Minastam t'est rassuré. Il n'y a pas à craindre. Et c'est pourquoi, là, il est laissé s'immerger dans le fleuve, et cependant, pour ce faire, il prévoyait des marcellettes, des nattes en roseau, qu'il étalait sur le rivage, pour qu'en marchant, on ne se prenne pas de la boue qui colle aux pieds et qui fasse ratitsa. Parce que c'est à ce moment dans l'année où il y a le plus de risques que la boue, elle colle, parce que le rivage, il est peut-être encore humide, parce que le niveau est descendu, comme ça je comprends dans Rachid ici. Et donc, pour éviter ce problème technique, il fallait une martellette, de sorte à y remédier. Et maintenant, on passe encore avec Amarabi Ami Amarav. Mais rien à voir avec... C'est encore juste parce que c'est le même intervenant. Maïdirti vata ben adam aselecha kelegola. Hachem dit à Yechezkel de faire des kelim d'exilés. Les exilés, ils ont certains kelim avec eux, spécifiques. Eh bien, tu vas les faire, et ce sera un signe. Tu vas te les faire, et c'est un signe annonciateur que les Bnei Israël vont partir en galoute et que pour qu'ils ressentent la chose, que c'est pas juste une parole qui comme ça en l'air, qu'ils préparent et qu'ils ressentent, on se prépare à partir en galoute. Faites des kelim comme les exilés prévoient. Et donc on a l'impression qu'il y a des kelim spécifiques qu'un exilé prévoit, parce que on est bien d'accord qu'un exilé il prend pas tout ce qu'il veut avec lui, il prend le strict minimum, le strict nécessaire, etc. Alors, quels sont typiquement les clés gola? Eh bien, Rabbi Ami Amarav nous a commenté, Zou ner, Kehara, Veshatiar. Le ner, pour s'éclairer. Kehara, c'est une assiette creuse pour, comme un bol, assiette-bol, pour manger dedans. Et Chatiar, c'était une peau, je crois, rigide, pour soit précise, qui était mévouchale. Une peau mévouchale, je crois que le cuir, quand on le cuit, il durcit. Et ça fait comme une petite tablette pour manger dessus. Maintenant, ils ont ramené dans la Gemara bleue, au nom du Midrash Echa, qu'il y avait là-bas, à la place du nerf, ils ont mis dans le Midrash, Chemet, c'est une outre. Et le Midrash précise que chacun de ces trois, il a double usage. La Chemet, tu peux la remplir et la mettre comme un oreiller sous ta tête. La Kehara, c'est fait pour manger et pour boire. Et le Chatillard, c'est fait pour manger au-dessus comme une tablette ou pour s'asseoir dessus. Voilà, j'ai l'impression que ça veut dire que tu prends le minimum d'effet personnel, mais qui a le plus d'utilité. Et tu l'optimises pour ne pas avoir deux articles pour deux usages. Tu prends des objets qui ont multi-usages. C'est un peu l'impression que j'ai. Et ils ont demandé là-bas, alors pourquoi, d'après notre Gemara, c'est Ner. Mais Ner, certains veulent dire que Ner aussi, il a plusieurs usages. Tu peux mettre de l'huile pour t'éclairer. Tu peux faire d'autres choses avec, mettre d'autres choses. Moi, je pense qu'il y a quand même un avantage dans Chemet par rapport à Ner, au dire de Midrash. C'est parce que Chemet, tu as les deux usages en simultané, d'accord? Alors que le nerf, tu n'as pas deux usages en simultané, c'est ou ça, faut voir. Mais en tout cas, c'est qu'un aspect qui est là-bas, je ne sais pas si c'est l'intention de notre Gemara, que ce sont des kelim typiquement des golim parce qu'il y a double usage, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des kelim qui sont d'utilité première nécessité, et même un exilé ne peut pas s'en passer. C'est ça le machal que Hachem dit à Yereskel, fabrique-toi ça et qu'ils comprennent l'annonce qu'on leur fait. Maintenant, Amar Rabbi Ami, autre citation de Rabbi Ami Amarav, en rapport avec un pasuk. Bechoser kol, c'est parmi les malédictions dans Parashat Kitavo. Il est dit là-bas, Ve'avata et oivecha shel shalechenu Hashem bach, Ve'ra'av, Ve'tzama, Ve'rom, choser kol. Tu seras asservi à tes ennemis, là où Hashem t'enverra, en galout, dans la famine, assoiffé, et Ve'rom, dans le dénuement, ou brosser col, et manquant de tout. Manquant de tout, c'est synonyme de ce qu'on vient de dire. Attends, tu es affamé, tu es assoiffé, tu es dans le dénuement, tu n'as pas d'habit, et là tu me dis brosser col, ce que ça rajoute. Alors c'est pourquoi on interprète Amarabi Ami Amarav, bel honneur. Brosser col, ça désigne quelque chose de très utile, de très spécifique, et chaque Amora va dire qu'est-ce qui peut être vraiment un grand manque pour la personne. Alors, Ravidi, c'est sans le nerf et Shulchan. Se passer d'une table et d'un nerf, c'est difficile, plus que d'autres choses. Ravrizda Amar Beloïcha. Parce que Ravrizda, il a dit ailleurs que grâce au fait qu'il s'est marié jeune, alors il a combattu l'Yetzerara mieux que d'autres Rachamim de son époque. Alors, c'est ça qui fait qu'il perçoit que Beloïcha, c'est pas juste par rapport aux besoins naturels, mais parce que par rapport à la milchemet ayetzer, c'est plus important que tout. Rav Shechet Amar Belo Shamash, sans avoir de Shamash à ses côtés. Quoi, tout le monde a un Shamash? Oui, les seigneurs, les gens chachouvim. Non, alors certains expliquent que Rav Shechet, lui, pour sa part, être privé d'un Shamash, c'est extrêmement difficile parce qu'il était aveugle. Et donc, il fallait qu'il soit pris en charge. Il y avait quelqu'un qui devait l'assister. Donc, sans le chamache, c'est pas une vie pour lui. Et de plus, parce qu'il était tellement versé dans son étude, il révisait, il retravaillait son étude chaque 30 jours. Donc, il avait le temps pour rien du tout. C'est pourquoi un homme comme ça, un chamache, c'est vital. Donc, c'est ça, le grosser col en termes de malédiction. Ce serait quelqu'un de cet ordre-là qui serait privé de son chamache. Rav Nachman Amar Belodea. C'est le manque de sagesse. C'est ça, Choser Kol. Quand tu n'as pas la sagesse, c'est comme si tu n'as rien du tout. C'est ça, Choser Kol. Tana. Dans une braïta, on a traduit Belo Melach, Belo Revav. Sans sel et sans huile. Parce que c'est les choses qui agrémentent le pain au minimum. Quand tu ne peux pas te payer des condiments, tu ne peux pas te payer des accompagnements du livouille, ce qui accompagne le pain, alors le minimum, c'est pas de Melach. Ou avec de l'huile, eh bien, même s'il te manque même ça, c'est vraiment un choser kol. Amar Abaye Nakitinan. Elani la BDA, il y a de Ani que par rapport à la sagesse. C'est vrai que la notion de Aniyut existe par rapport aux moyens matériels, mais ça, certains diront que c'est qu'un Lachon Mouch'al, c'est un terme emprunté, mais au sens premier, Ani, c'est BDA que ça s'entend, au niveau de la sagesse.
Nakitinan.
Naktina, nous tenons. que En Ani la Bedea. D'accord? Ça va dans le sens de ce que Rav Nachman a dit. Rav Nachman, il a traduit, c'est quoi Choser Kol? Parce que s'il te manque la Dea, il te manque tout. Parce que c'est ce qu'il y a de plus. Alors, Bimaravam Re, en Eretz Israël, on disait à ce sujet, des Dabé, il y avait un proverbe. Celui qui a ça en lui, la sagesse, Kulabé, il a tout en lui. De là, Dabé, celui qui n'a pas ça en lui, Mabé, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Et même s'il possède, il peut tout perdre. Et si il a une réussite maintenant, c'est pas garanti que ça tiendra, etc. Sans la sagesse, tu n'as rien. Et il y a une autre version. Des da kané, pardon, da kané, celui qui a acquis cela, la sagesse, makhassar, qu'est-ce qui manque? Da la kané, et si ça, il n'a pas acquis, makané, qu'est-ce qu'il a lui acquis? C'est un peu le même proverbe, mais avec la notion de kinyan. Kinyan, certains voudront dire que c'est l'effort personnel pour y parvenir à cette sagesse. Tandis que des dabé, c'est-à-dire quelqu'un qui naturellement, il est fin, naturellement, il perçoit tout de suite, il a l'œil fin, tout de suite, il comprend, et il sait comment gérer, etc. Donc, les deux sont vrais, que tu l'aies d'emblée ou que tu l'aies atteint, sauf, t'as tout avec. Et si tu l'as pas, ni tu l'as eu d'origine, ni tu as fait l'effort pour l'atteindre, eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu n'as aucune garantie de rien. Même si tu as une réussite, ça peut être que éphémère. Maintenant, il y en a qui disent, ils ont ramené ça là dans la Gemara, que la répétition, c'est par rapport aux deux domaines spirituels et matériels. La sagesse, c'est une garantie dans les deux domaines. C'est pourquoi il y a les deux expressions, deux proverbes, ce n'est pas une répétition. Voilà pour aujourd'hui. Chazak.